Radio Okapi.
Et c'est avec Noëlla Lusitu qui est à la présentation.
Clôture ce samedi de la mission d'inspection et de commandement à Goma du chef d'état-major général des FRDC. Le général d'armée Christian Tshiwewe a visité quelques positions des FRDC et a tenu une causerie morale à l'intention des militaires déployés dans cette zone opérationnelle. Dès demain lundi 13 novembre, la CENI organise des cadres de concertation pour des élections transparentes, inclusives et apaisées avec les candidats présidents, les partis politiques et les regroupements politiques ainsi que la société civile. Bonjour à tous et bienvenue à cette édition d'information. Le chef d'état-major général des FRDC a clôturé hier samedi sa mission d'inspection et de commandement à Goma. Avant de s'envoler pour Lubumbashi dans le Haut-Katanga, le général d'armée Christian Tshiwewe a visité quelques positions des FRDC. Il a tenu aussi une causerie morale à l'intention des militaires déployés dans cette zone opérationnelle. Dans une vidéo publiée sur le compte X des FRDC, il les a appelés à la discipline et leur a rappelé que le chef de l'État met toute sa confiance en eux. On écoute le général Christian Tshiwewe dans cet extrait proposé par Alain Irung.
Mampingaya FRDC, notre devise. Notre devise. Notre devise.
Je ne vous abandonnerai jamais. Je ne vous oublierai jamais. Je serai tout le temps avec vous et je viendrai ici à Goma régulièrement pour vous suivre de plus près. Je ne le rappellerai pas ici, mais vous connaissez les déclarations du chef de l'État en ce qui vous concerne. Il compte beaucoup sur vous. Soldats, sois discipliné, sois derrière tes chefs hiérarchiques. Le commandant de ton bataillon est là, le commandant de ta compagnie est aussi là, les chefs de section, les chefs de peloton sont également là. Moi, je vous reconnais à travers votre discipline et que cette discipline soit maintenue. Nous sommes dans une zone opérationnelle. Ceux qui ont des téléphones et qui y passent tout le temps, ceux-là ne sont pas des militaires.
Et puis dans la province de la Tshopo, plus de 600 étudiants volontaires sont internés depuis jeudi dernier à l'ICEA Bengamisa pour la formation paramilitaire. Ils sont venus de diverses institutions d'enseignement supérieur et universitaire, aussi bien de Kisangani que de Goma. Le ministre de l'enseignement supérieur et universitaire Moïn Donzangi, qui les y a conduits en compagnie du vice-ministre de la Défense, se dit convaincu que cette première cohorte pilote sera bien formée afin de pouvoir défendre valablement le pays au cas où il serait rappelé par la hiérarchie. On l'écoute dans ses propos sélectionnés par Jacques Moukonkolé.
Je vous avais promis hier qu'à partir d'aujourd'hui, vous allez devenir des militaires. Aujourd'hui, vous entrez dans l'histoire. Vous êtes les premiers étudiants volontaires du pays qui vont constituer la première cohorte des étudiants formés comme des militaires. Je suis très convaincu que vous êtes venus comme des civils et que vous allez quitter ici comme des vrais militaires. Le président de la République, Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, il a appelé à la mobilisation générale de toutes les forces du pays pour que nous puissions être prêts à tout moment, lorsque notre pays est attaqué, nous tous, à pouvoir défendre notre pays. On ne va pas le défendre sans être formés. Et c'est pour cela qu'on a décidé que cette année, nous puissions commencer par la première cohorte. Je voudrais vous dire que vous, les premiers volontaires, vous qui avez été les premiers, les pionniers, vous aurez beaucoup d'avantages. C'est que sur le site ici, si vous allez avoir la bonne formation et toute la formation, vous aurez des drones, vous aurez des armes, vous allez tirer, vous allez faire des exercices physiques très 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 complexes. On va vous apprendre la tactique militaire, on va vous apprendre les tirs, les GP, vous allez tirer avec les AK-47, on va tout vous apprendre.
En ce qui concerne la situation sécuritaire dans le territoire de Beni, au Nord Kivu, le président de la jeunesse de Kasindi, une cité frontalière de l'Ouganda, appelle les services de sécurité à anticiper les menaces et tout autre cas de banditisme armé dans la zone. Muindo Kalungero lance cet appel au lendemain d'un cas de vol à main armée accompagné de pillage dans le domicile d'un journaliste du territoire. L'un des présumés bandits avait été appréhendé par des habitants du quartier voisin qui l'ont passé à tabac. Il a été sauvé de justesse par la police. Muindo Kalungero explique au téléphone de Sadiki Aboubakar.
comme animateur de structure des jeunes, nous avons toujours dénoncé la défensive, c'est-à-dire l'intervention tardive qu'a toujours affiché l'appareil sécuritaire de Kassindi et en particulier dans le territoire de Beni d'une façon générale, où la plupart des cas, on n'a pas toujours l'habitude d'empêcher l'ennemi à faire quelque chose. On vient toujours constater les faits quand l'ennemi a déjà posé des actions négatives dans la population. C'est pourquoi notre appel aux autorités de la sécurité, de l'entité, et l'administrateur militaire et à tout ce qui est agent de l'ordre dans la cité de Kassindi, c'est de demander aux autorités de multiplier les efforts, d'être toujours en avant et surtout de multiplier la collaboration avec les jeunes de chaque quartier pour ne fût-ce que voir en amont les situations qui se passent dans chaque quartier.
Créée en 2019, l'école primaire Saint-Jérôme de Boutembo était destinée à l'éducation des enfants déplacés venus des différentes localités du territoire de Beni et même de la province de l'Ituri fuyant les massacres de ZADF. Cette école avait atteint un effectif de plus de 200 élèves, tous des déplacés, sans compter les enseignants et le personnel administratif. Au début de cette année scolaire, suite à des difficultés de fonctionnement et de la baisse de la qualité de l'enseignement, les autorités scolaires ont décidé de fermer l'école. Quel est le sort de ces élèves et de leurs enseignants? Baudouin Moïne Donguka, chef de la sous-division de l'EPST Boutembo 2, explique au téléphone de Sadiki Aboubakar.
Les inspecteurs, dans leur itinérance, ils ont constaté que cette école a des sérieux problèmes de manuels, problèmes de non-prise en charge des enseignants, aux difficultés de fonctionnement. Et alors, suite à ces différents rapports des inspecteurs, on a jugé bon que vraiment cette école puisse fermer pour ne pas gâcher l'avenir des enfants. C'est ainsi que les enfants, nous les avons orientés vers 3-4 différentes écoles primaires publiques. Mais dans le suivi de ces enfants, ils s'adaptent bien. Les enfants n'ont pas assez de problèmes. Déjà même à la fin de la première période, les enfants se sont bien débrouillés. Les enfants sont presque à grande partie enfêlés, vulnérables. Il ne fallait pas, à part ce malheur qui leur est arrivé par la nature, qu'on puisse encore ajouter d'autres problèmes, des sous-qualifications, des enseignements de mauvaise qualité. Les enseignants ont été mis à la disposition de la coordination, qui nous ont promis que dès qu'il y aura des places vacantes dans les unes des écoles catholiques, on pourra faire appel à ces enseignants.
Je vous le disais dans le sommaire, la CENI organise du 13 au 15 novembre des cadres de concertation pour des élections transparentes, inclusives et apaisées avec les candidats présidents, les partis et regroupements politiques ainsi qu'avec la société civile. Pour en savoir un peu plus, suivez le premier vice-président de la CENI, Didi Manara Linga, dans ses propos recueillis par Alain Irung.
À quelques 40 jours des élections présidentielles, législatives, provinciales et municipales, la Commission électorale nationale indépendante, fidèle à son engagement d'ouverture et de contact permanent avec les parties prenantes, organise du 13 au 15 novembre 2023 des cadres de concertation avec les candidats président de la République, les partis et regroupements politiques et candidats indépendants, ainsi qu'avec la société civile dans sa diversité, pour des élections inclusives, crédibles, transparentes et apaisées. Le cadre de concertation CENI candidat président de la République se tiendra le lundi 13 novembre 2023 au fleuve Congo Hôtel, tandis que le cadre de concertation avec les partis et les groupements politiques, candidats indépendants, ainsi que celui avec la société civile, se tiendront respectivement le mardi 14 et le mercredi 15 novembre dans la salle de spectacle du Palais du Peuple. Les invitations sont à retirer au siège de la CENI dès ce samedi 11 novembre 2023 à partir de 9h. Il est à noter que chaque candidat président de la République qui le désire devra se faire accompagner d'un seul collaborateur.
Dans la province du Maniema, la Caritas Développement Kindu, avec l'appui du PNUD, a formé différentes couches de population sur l'approche de la paix et de la prévention des conflits en période électorale. C'était dans le cadre du projet d'appui à la prévention des violences électorales pour la cohésion sociale dans la ville de Kindu. Les territoires de Punia, Kailo, Kibombo et les chefferies de Benyasamba et Basonge 1 dans le territoire de Kasongo. Objectif visé, renforcer les capacités des participants afin de favoriser la cohésion sociale et créer un climat apaisé pendant la période électorale et post-électorale. Florence Kizalunga.
Durant 6 jours, 50 personnes venant de différentes couches sont formées sur les élections inclusives et apaisées, la médiation électorale et le monitoring des discours de haine. Ils deviennent des acteurs de paix durant le processus électoral dans la ville de Kindu. Un participant témoigne.
Les impressions sont très bonnes parce que je viens d'apprendre beaucoup de cet atelier, beaucoup dans le sens que j'ai appris des histoires que je ne connaissais pas avant et j'ai une nouvelle configuration de comment résoudre, comment prévenir, comment faire pour gérer les conflits qui peuvent subvenir de la période électorale. Dans l'échange que nous avons eu, j'ai beaucoup appris et j'en ai tiré beaucoup de choses pour enrichir le travail que j'ai toujours fait, la sensibilisation de parties prenantes aux élections.
Le directeur de Caritas Kindu exhorte les participants en ces termes, Abbé Stanislas Milabio.
En plus de remerciements, nous voulons aussi vous encourager. Vous encourager dans cette nouvelle religion de la non-violence à laquelle nous vous convions et surtout à ce travail de prévenir tout cas de violence pendant ce temps électoral dans notre ville de Kindu.
À la fin, chaque participant a reçu son certificat de participation. Kindu, Florence Kizalunga, Radio Kapi.
Plan local de développement, PLD, 145 territoires, aucun ouvrage n'a été réalisé jusqu'à présent dans plusieurs territoires, notamment au Walungu, au sud Kivu, et dans bien d'autres, tels que dans la province du Kasaï, à titre illustratif. Pourtant, les fonds alloués aux travaux avaient été bel et bien débloqués pour tous les territoires de la RDC dans ce projet visant le développement à la base. C'est ce que dénonce le député national Olive Moudé-Kereza. Dans un point de presse tenu ce week-end à Kinshasa, l'élu de Walungu a également recommandé au gouvernement de réserver un budget additif pour l'entretien des infrastructures construites et de mettre des engins à disposition de la population pour l'entretien des routes réhabilitées. Les propos du député national Olive Moudé-Kereza ont été recueillis par Jean-Désiré Kanyama.
Nous avons environ 154 000 km de routes non asphaltées. C'est peut-être, je crois, 10% ou 20%. Je viens de proposer au gouvernement pour dire qu'il faut, à chaque 100 km de route, installer une brigade, c'est-à-dire des engins. Un minimum avec 250 000, on peut même avoir des engins en seconde main, ce qu'on dit second hand. Avoir des bennes, avoir un niveleuse, avoir pelle, un compacteur. À chaque fois, quand il y a un problème, ces engins-là interviennent. Et si on n'a pas ça en permanence, on n'aura rien résolu dans ces pays. C'est des mesures d'encadrement, des mesures institutionnelles qu'on peut prendre. D'ailleurs, moi, j'avais proposé que la gestion de ces infrastructures soit faite par la base. Voilà, aujourd'hui, le 145 n'a pas encore bien fonctionné au site Kivu. Nous sommes des territoires de Walungu. Il n'y a pas grand-chose. Je n'ai pas encore vu quelque chose qui est fait. Mais il faut qu'on règle ça aussi rapidement.
Retour dans la province du Maniema. 226 cas de menaces aux défenseurs des droits de l'homme ont été documentés en 2021 jusqu'à ce jour. C'est le coordonnateur de l'ONGD Action humanitaire pour la paix et le développement à Upande qui l'a dit ce samedi lors de la rencontre de restitution des assises de Kinshasa sur le projet de la prise en charge holistique des défenseurs des droits de l'homme. Pierre Zachary Lokonga Katako demande aux défenseurs des droits de l'homme de dénoncer tout cas de menace. On l'écoute au micro de Florence Kizalunga.
C'est la restitution de la formation suivie à Kinshasa sur un projet de la prise en charge holistique des défenseurs des droits de l'homme. C'est Defenders avec AIPA des réhachements. Ça vise les défenseurs des droits de l'homme sous les situations de menace. Après avoir fait un rapport, après avoir publié un rapport, après avoir dénoncé un cas, alors les défenseurs des droits de l'homme est sous menace. En ce moment-là, les fonds doivent les protéger pour les mettre à l'abri de toutes circonstances qui peuvent lui arriver. Depuis que nous avons commencé en 2021 jusqu'à maintenant, les cas qui ont été enregistrés, c'est plus ou moins 226 cas. Mais les cas qui ont été assistés, c'est 72 cas. Les défenseurs des droits de l'homme ne doivent pas rester calmes. Les défenseurs des droits de l'homme doivent dénoncer. Aussitôt que la menace lui arrive, il doit communiquer avec le réseau. En ce moment-là, quand nous recevons l'alerte et à la minute, nous transmettons l'alerte à qui de droit.
Actualité internationale.
Les combats se poursuivent entre l'armée malienne et la coalition CSP-PSD pour le contrôle de Kidal. Des tirs à l'arme lourde ont été entendus à une vingtaine de kilomètres de la ville, selon RFI. L'armée malienne, avec un appui important des mercenaires de la société paramilitaire russe Wagner, a engagé une bataille contre les rebelles de la coalition dénommée CSP-PSD pour le contrôle des Kidal. Ces derniers occupent la ville depuis 2012, ville qu'a quittée la mission onusienne, la MINUSMA, le 31 octobre dernier. En attendant, les populations civiles continuent de quitter Kidal, où les lignes téléphoniques sont désormais interrompues. Des rares personne utilise le téléphone satellitaire.
L'invité.
Dans la province de la Tchopo, l'Institut international de l'agriculture tropicale, IITA, a lancé le jeudi à la Faculté des sciences agronomiques de l'Université de Kisangani le projet d'incubation de jeunes à l'agrobusiness. C'est en présence des autorités politiques, académiques ainsi que du project manager de l'IITA, Liliane Togogo. En quoi consiste ce projet? Comment accéder à cette formation d'un mois et demi? Et quels en sont les avantages? Gelon Swanda, assistant technique de l'IITA, notre invité, il s'entretient avec Jacques Moukonkole.
Gelon Swanda, bonjour. Quel est l'objet de la présence de la délégation, la grande délégation de l'IITA, ici à Kisangani et particulièrement à la Faculté des sciences de l'Université de Kisangani?
Ok, merci beaucoup. Comme vous dites, aujourd'hui nous sommes à Kisangani, c'est pour lancer le processus d'incubation des jeunes en agribusiness. Et l'IITA est l'assistante technique au sein du projet PEJAB.
Qu'est-ce que vous entendez par l'incubateur?
L'incubateur pour nous, c'est des structures d'accueil des jeunes qui hébergent les jeunes, qui forment et qui accompagnent les post-incubation après. Parce que vous pouvez accompagner les jeunes, vous pouvez former les jeunes, mais s'il n'y a pas un accompagnement derrière, beaucoup de ces entreprises disparaissent, meurent, parce qu'il n'y a pas un accompagnement après.
Quel genre d'accompagnement?
Il y a l'accompagnement dans la mise en œuvre même de ces entreprises des jeunes. Puissent développer en fait leur clientèle, leur marché qui s'installe avec les entreprises qui puissent prospérer. Donc il y a l'accompagnement en termes techniques et puis il y a un accompagnement managérial. Et l'IITA est l'assistante technique au sein du projet PEJAB.
Alors, quelle est la durée de cette formation?
Ok, la durée de la formation, c'est de 1 mois et demi pour la première cohorte et ensuite, il y aura les autres cohortes qui vont suivre.
Comment accéder à cette formation? Et c'est tout jeune intéressé que vous pouvez recruter?
Justement, ce n'est pas n'importe quel jeune on a sélectionné. Il y a un critère. D'abord, il faut être jeune, c'est-à-dire avoir l'âge compris entre 18 et 35 ans. Avoir un diplôme du niveau supérieur, être gradué ou licencié, être motivé, être disponible à suivre la formation pendant tous ces temps prévus par le projet.
Et la formation elle-même, comment sera-t-elle organisée?
Il y aura une première cohorte qui sera formée de 50 jeunes, dont 50% de femmes, qui vont suivre une formation accélérée dans les différents maillons des chaînes de valeur retenus ici à la Faculté des sciences agronomiques de l'Université de Kisangani. Et ensuite, il y aura une deuxième cohorte de 50 jeunes qui sera encore recrutée, sera formée, accompagnée dans les différents maillons, afin qu'ils créent leurs propres entreprises dans les domaines agricoles.
Quels sont les domaines de formation que vous avez retenus?
Il y a différents maillons qui sont choisis dans les filières agricoles. Il y a la transformation des manioc, la transformation de la banane, il y a la transformation des différents produits, légumes, fruits. Il y a également l'élevage, la pisciculture. Ce sont là les différents maillons qui sont sélectionnés au sein de ces premières cohortes des jeunes.
Où se fera cette formation? Dans les salles de cours ou sur le terrain?
Il y a deux aspects dans la formation. Il y a les aspects techniques et les aspects théoriques, bien sûr. Pour élaborer, vous comprenez, vous serez d'accord avec moi, pour élaborer un plan d'affaires, vous aurez besoin d'un cadre idéal pour élaborer un plan d'affaires. Donc c'est certainement dans la salle. Mais les aspects techniques, en ce qui concerne la transformation des produits agricoles par exemple, c'est sur terrain. La production, l'élevage, la pisciculture, c'est sur terrain qu'il faut le faire. Donc il y a des aspects qui sont pris en compte dans la mise en œuvre du PEJAB.
Mais ce sont des étudiants, ils n'ont pas encore de ressources, mais pas de moyens financiers. Est-ce que l'IITA prévoit un mécanisme devant permettre à ces jeunes de démarrer leurs activités?
La coordination du projet PEJAB à Kinshasa, au sein du ministère de l'Agriculture, a élaboré un mécanisme de financement. Donc il y a une collaboration entre la coordination du projet PEJAB et la banque. Ce mécanisme de financement permet à ce que la banque puisse donner des crédits aux jeunes sans garantie. C'est en fait ça. La différence qui aux autres projets qui travaillent dans le même sens que le PEJAB.
Gelo Nsonda, merci.
Merci beaucoup.